Et vous écoutez France Culture. On ne peut pas plaisanter avec la peur, Edgar G. Ulmer. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui voit plus que jamais minuit à sa porte, et ce à l'occasion de la sortie aux éditions Rouge Profond du troisième tome de la réédition restaurée et augmentée de la mythique revue Midi Minuit Fantastique. Son maître d'œuvre Nicolas Stanzik est des nôtres ce soir pour évoquer cet événement. Chronique barkérienne en second temps d'émission, avec la sortie en édition Blu-ray et DVD chez ESC au Chat qui Fume de version collector du Maître des Illusions et de la trilogie Hellraiser. Alors bienvenue dans Mauvais genre, l'émission qui vous tire l'âme hors du corps. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Mauvais genre. Je le répète, une émission ce soir largement consacrée au cinéma, l'actualité des revues, les revues telles qu'elles furent et telles qu'elles sont encore et telles qu'elles seront dans les années qui viennent. Je resterai ce soir, bien sûr, avec Nicolas Stanzik. Bonsoir Nicolas Stanzik.
Bonsoir François.
Heureux de vous avoir là dans ce studio avec nous pour ce troisième tome. En effet, l'aventure continue. Vous étiez là pour le premier, pour le second et pour le troisième, bien évidemment, qui marque alors une espèce de, peut-être, de sommet dans l'histoire de Midi Minuit Fantastique, puisque là on a vraiment le parachèvement, tout est là, la bande dessinée, la littérature, le cinéma, les festivals, les grands entretiens, les chroniques, la théorie, les photos, c'est là le zénith, c'est peut-être l'âge d'or, voilà.
Oui, tout à fait, voilà, c'est vraiment le milieu des années 60, c'est le moment où on a Christopher Lee, Barbara Steele, Edgar J. Ulmer, enfin tout un tas de... d'icônes du genre à l'époque qui
c'est une période où ça bascule.
Ça bascule. Il y a aussi Godard. On va
parler de tout ça. En tout cas, soyez le bienvenu à Mauvais genre. Vous serez en compagnie de Sixtine Audebert. Comment va-t-elle?
Très bien. Je suis heureuse de pouvoir évoquer avec vous l'indissociable lien entre le plaisir et la douleur.
Tout à fait. Vous êtes de mieux en mieux. quelques petits événements, grands événements à signaler.
On va peut-être parler de l'étrange festival un petit peu. Voilà. Effectivement, qui est du 5 au 15 septembre au Forum des Images et qui va également mettre à l'honneur le 15 septembre avec la projection d'Underground, un film sur les réseaux médiatiques souterrains, en tout cas le fanzina, la micro-édition européenne. Également, donc, le dernier cri, les éditions du dernier cri.
C'est les 25 ans du dernier cri de Paquito Bolino, que l'on salue et à qui l'on souhaite bonne anniversaire. Bien aussi l'exposition de la Halle Saint-Pierre, l'arbre japonais.
J'espère qu'on en parlera plus longuement.
On a une émission japonaise qui chauffe, si j'ose ainsi m'exprimer.
Voilà.
Et on en parlera puisque l'exposition dure jusqu'au 10 mars. Donc, on a largement le temps de se tourner et de se retourner, Philippe Rouillet, bien évidemment.
Aussi. Bonjour.
Bonjour, Philippe. Bonsoir. Rapidement, parce qu'on est très 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 chargé aujourd'hui dans le programme, quelques mots sur Burt Reynolds.
Ah oui, qui nous a quitté hier, avant-hier. C'est vraiment quelqu'un qui a pas eu la carrière qu'on aurait rêvé pour lui. C'est quelqu'un qui au départ voulait être joueur de football américain, qu'il sera finalement dans un film de Robert Aldrich, hein, qui est plein la gueule, et qui va se découvrir une envie d'être acteur. Et comme il a quand même, c'est un sportif, quoi. Je veux dire, au football américain, faut pas avoir un profil haricot vert. Donc immédiatement, il se destine, même si d'abord il est au théâtre. C'est au théâtre qu'il fait des débuts, et il est plutôt dans des pièces comme Thé et Sympathie, etc. Mais au cinéma, tout de suite, il y a une connivence vers le cinéma de genre, et c'est Clint Eastwood qui lui dit, mais mon gars, si tu veux des premiers rôle, tourne-toi carrément vers le cinéma de genre. Et c'est comme ça qu'il va décrocher le premier rôle de Navajo Joe.
On va y arriver.
De Sergio Corbucci.
Navajo Joe.
Où il joue l'Indien. Hein, l'Indien vengeur. Et là, ça va être le début d'une nouvelle carrière dont finalement l'apogée va être sans doute en 72 avec John Borman et Deliverance. Et ce rôle, c'est, à mon sens, un de ses plus beaux, mais c'est aussi un peu un rôle empoisonné. Mmh. Parce qu'il y joue vous vous souvenez, les quatre copains qui décident de remonter les rapides et tout ça, et c'est vraiment pas une bonne idée dans le coin des rednecks. Et lui, c'est le plus philosophe, hein, le rapprochement avec la nature, etc., la force virile. Et évidemment, la force virile, immédiatement, elle est blessée et presque castrée. Et c'est les autres qui vont devoir faire tout le travail. Et je pense que ce rôle-là est presque emblématique de ce qu'il aurait voulu et de ce qu'il a pas tout à fait réussi à faire. C'est pas faute de cette avec des metteurs en scène, avec Bogdanovich, avec Aldrich pour lequel il a retourné. Il y a le Sarafian, le fantôme de Cat Dancing. Donc il y a quand même beaucoup de films, mais quand on regarde par exemple et qu'on compare avec Clint Eastwood, c'est pas aussi flamboyant, même si lui aussi a réalisé des films. Et puis après les années 90, il y a une sorte de retour de flamme, on redécouvre l'acteur. Et c'est Paul Thomas Anderson qui lui donne le grand rôle tardif, qui est celui du réalisateur de films porno dans ce film cultissime qui est Boogie Nights.
Boogie Nights.
Qu'on n'arrêterait pas de citer dans Mauvais Genre, parce que c'est vraiment le film des mauvais genres, le film d'Hollywood aujourd'hui. Et un signe de ce qu'est la carrière de Burt Reynolds, c'est que Tarantino l'avait engagé pour son nouveau film, Il était une fois à Hollywood, hein, son histoire de Charles Manson. Donc, il sera pas dedans parce qu'il a pas eu le temps de tourner. Le film a commencé, mais il n'a pas tourné. Mais cet intérêt de Tarantino, qui a toujours comme ça relancé des carrières de gens un peu sur le déclin, serait peut-être été un nouveau départ pour Burt Reynolds, dont il nous reste donc de formidables éclats. C'est un régal pour les cinéphiles. Je veux dire, il n'y a pas un film de Burt Reynolds où on voit pas quelques plans assez saisissants, assez formidable. Donc pour mon goût personnel, j'aurais aimé encore plus, mais c'est quand même une très très belle carrière qu'on salue ce soir.
Merci Philippe pour cet hommage à Burt Reynolds. Fausto Fazulo, bonsoir.
Bonsoir
Burt
François.
Reynolds, rapidement.
Burt Reynolds, moi j'aime beaucoup un de ses films qui est souvent oublié, c'est quand Robert Aldrich l'a fait retourner pour La Cité des Dangers.
Absolument.
Qui est un fantastique polar avec Catherine Deneuve, qui ressemble un peu à Driver de Walter Hill, enfin une sorte de film où justement, là pour le coup, il est très viril dedans, mais il explore une sorte de fragilité. Et puis en tant que metteur en scène, c'est vrai qu'il était intéressant aussi. L'Anti-Gang, c'est un film qu'il a réalisé je crois au début des années 80, était vraiment pas mal. Et puis après il avait fait aussi un des films du diptyque Gator, donc Gator qui est un grand film redneck. C'est vrai qu'il était souvent associé à des productions qui on va dire puisaient dans toute cette esthétique de l'Amérique du Sud.
Stick, le justicier de Miami.
Stick, le justicier de Miami, qui était sa deuxième réalisation.
Avec quelques beaux plans, hein.
Oui, carrément. Donc
il y a des belles séquences. C'est pas du tout un réalisateur.
Non, carrément pas. On sent qu'il a appris effectivement comme Clint Eastwood auprès des grands metteurs en scène qui l'ont fait tourner, quoi.
Merci Fausto. Votre actualité de rentrée à vous, c'est bien évidemment la nouvelle formule de Mad Movies. Quelques mots sur cette nouvelle formule.
C'est une nouvelle formule qui nous a beaucoup stimulé nous en interne. J'espère qu'elle stimulera tout autant les lecteurs.
Bien évidemment.
C'est toujours très compliqué quand on a une maison vieille de 47 ans de bouger les meubles sans rayer le parquet et en faisant plaisir à ceux qui habitent justement cette maison, à savoir nos lecteurs. Donc on a essayé d'élargir notre spectre critique et puis de proposer plus de longs entretiens, de faire en sorte de mettre vraiment en valeur en fait la parole de ceux qui font le cinéma qu'on aime. Et puis aussi en s'amusant un petit peu à décloisonner, on va dire un peu les rubriques, en cassant tout ce rythme en fait qui faisait la presse des années 80 et 90 et qui aujourd'hui se doit à mon sens d'être un peu rénové. Donc voilà, c'est un grand coup de plumeau qu'on a fait.
On sera là pour bénéficier de ce coup de plumeau et puis en rendre compte à chaque édition mensuelle, donc, et puis à chaque Mauvais Genre, nous en reparlerons. Merci Fausto. Et bien maintenant c'est la parole à Céline. Bonsoir Céline.
Bonsoir François. Je vous propose ce soir une collection, un brin obsessionnel.
Alors le pommeau de canne à système que nous avons sous les yeux est un objet extrêmement amusant. Il s'agit d'une petite tête de mort de 3,5 cm de haut, donc c'est vraiment petit. Sous la mâchoire inférieure, il y a un pas de vis et on voit des petites pattes métalliques. Ces petites pattes métalliques permettait, lorsque vous appuyez votre canne à terre, de faire rouler les yeux, qui adoptaient trois positions différentes, comme une poupée, et de sortir la langue. Je précise que les yeux sont tous différents selon la position. Vous avez des yeux de verre, des yeux qui sont simplement peints et sculptés, et des cavités sculptées sans pupille. Et la langue est teinte en rouge. Donc c'est vraiment un effet extrêmement cocasse, d'un goût qu'on pourrait juger évidemment un peu douteux pour l'époque. Quelle était l'utilisation de cette canne? Bon, je ne sais pas, elle n'a plus le fût. Est-ce que la baronne a acheté la canne entière et que la canne s'est cassée? Je ne sais pas. Vous voyez, tout ça, c'est des mystères qui demeurent. Est-ce que ça l'amusait? Est-ce qu'elle faisait actionner cet objet? Parce que c'est un objet très amusant. Est-ce qu'elle faisait des farces avec? Je ne sais pas.
L'histoire commence comme un mystère. Sophie Motsch, attachée de conservation au musée des arts décoratifs de Paris, tombe un jour sur une collection de têtes de mort. 180 objets profanes ou sacrés, venant essentiellement d'Occident mais aussi du Japon, allant d'un centimètre de hauteur à un mètre et réunis aux alentours de 1900. Ces objets ont été collectionnés par une baronne, la baronne Henri de Rothschild, dont rien dans la vie ne permet de penser qu'elle était fanatique de têtes de mort. C'est une baronne, donc, très de son temps et de son milieu, alliant œuvre charitable et vie mondaine, a priori une vie très comme il faut, si ce n'est qu'à cette époque, une femme de ce milieu ne collectionne pas les têtes de mort, ça ne se fait pas. Alors Sophie Motsch s'est transformée en véritable détective normale pour une grande admiratrice de Maigret. Dans son bureau, les boîtes en carton entièrement consacrées à la baronne s'alignent les uns à côté des autres. L'enquête est loin d'être finie, mais ce qui est sûr, c'est que les objets nous montrent une image bien moins lisse et conventionnelle que celle que l'on peut voir sur les portraits officiels de la baronne Henri de Rothschild, Sophie Motsch.
La baronne possédait également quelques bijoux, dont on ne sait pas si elle les mettait, hein, bien sûr. On n'a pas de preuves, on n'a pas d'indices. En particulier une épingle de cravate qui claque des dents. Alors qu'est-ce que c'est que cette épingle de cravate? Donc faut imaginer une toute petite tête de mort qui fait à peine 2 cm de haut. Elle est en or émaillé, les yeux sont en diamant. Vous voyez, quelque chose d'extrêmement précieux et relativement cher pour l'époque. Et quand on observe bien, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un petit anneau à l'arrière et que la mâchoire bouge. Et à force de fouiller dans de la documentation, j'ai eu le plaisir de retrouver un journal qui s'appelle La Nature, c'est un peu l'équivalent de Science et Vie ou de Scientific American, un journal de 1867 dans lequel est un article qui s'intitule « Bijoux électriques de Monsieur Gustave Trouvé ». Alors, un inventeur qui s'appelle Trouvé, ça, c'est quand même assez génial. Donc, ce monsieur est vraiment un touche-à-tout de génie, l'homme du 19e siècle, passionné par les mécanismes d'horlogerie, la miniaturisation et l'électricité. Et il va mettre au point toutes sortes de bijoux électriques. Alors, cette épingle, elle est mue par l'électricité grâce à une toute petite pile qui est dissimulée dans la poche du veston, relié à un minuscule fil par ce petit anneau qui est fixé à l'arrière, et vous actionniez à volonté, discrètement, ce mécanisme, et la tête claquait des dents et roulait des yeux. Donc il faut imaginer l'effet spectaculaire, parce que cette épingle a été créée autour de 1867. Donc c'est quand même d'un goût particulier. Est-ce que la baronne, lorsqu'elle chassait, portait cette cravate, puisque la chasse est vraiment une activité très ambivalente, puisque c'est l'occasion, enfin, c'est l'endroit où finalement les femmes sont quasiment habillées comme des hommes, puisqu'elles ont une cravate à la manière d'un homme, et elles peuvent se mettre une épingle de cravate. Alors que dans un habillement féminin de ces époques-là, il n'y a absolument pas la possibilité de mettre une épingle de cravate. Alors j'aimerais évidemment terriblement trouver des photos de la baronne portant l'épingle sur sa cravate lorsqu'elle chasse, mais pour le moment, je n'en ai pas trouvé. Mais enfin, cette tête est absolument incroyable. Et extrêmement précieuse aussi.
Mais le fait de collectionner des têtes de mort à cette époque-là, donc au début du XXe siècle, est-ce qu'il y a tout de même quelque chose de l'air du temps? Est-ce qu'on s'intéresse à tout ce qui touche à la mort?
Ah oui, ça c'est indéniable. Les travaux médicaux de Charcot en particulier. Donc il y a notamment dans le catalogue de l'exposition la reproduction d'une revue sur laquelle on voit la tête de Charcot qui émerge d'une tête de mort. Donc c'est très impressionnant. Il y avait bien entendu à Montmartre toutes sortes de cabarets dans lesquels évoluaient des squelettes plus ou moins grotesques, plus ou moins grimaçants. Un goût pour le gore, un goût pour le macabre qui était très affirmé. Sarah Bernhardt dans ces époques-là dormait dans son cercueil. Oui, il y a un vrai goût, mais extrêmement masculin.
Heureux les habitants de Toulouse, car la collection de la baronne Henri est exposée en ce moment même et jusqu'au 30 septembre à la Fondation Bemberg. Une très belle exposition, scénographiée par Hubert Le Gall dans les caves voûtées de l'hôtel Azéza, intitulée « Même pas peur ». L'occasion rêvée de se pencher sur ces vanités d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, car il y a des œuvres contemporaines qui accompagnent les têtes de mort de la baronne. Par la suite, certaines pièces de la baronne seront à nouveau visibles au Musée des Arts Décoratifs de Paris, mais si on veut voir l'ensemble de la collection, direction Toulouse. Et pour finir, un très beau catalogue intitulé, lui aussi, Même pas peur, est par ailleurs disponible aux éditions Somogy, éditions d'art avec photos et articles passionnants, et en espérant surtout que dans les mois à venir, on ait grâce à Sophie Motsch de nouvelles informations sur la baronne Henri.
Merci Céline, et puis je signale aussi que les heureux Toulousains bénéficieront également au mois de septembre, grâce à Max Lachaud, du Fifi Gros, le festival international du film groslandais. Céline.
Et puis dernière petite chose, mais rien à voir avec la baronne Henri, pour vous rappeler que vous pouvez écouter en ligne le documentaire « À mon seul plaisir » qui raconte la vie de Pierre Molinier, donc de 1900 à 1976, documentaire qui est écoutable dans le cadre de l'émission « Une vie ou une œuvre » et qui a été réalisé par Laurent Polleret.
Par Laurent Polleret ?
Lui-même.
Celui
lui-même.
Qui est à la radio ?
Lui-même. Donc c'est quand même l'occasion d'entendre par exemple la voix de Jacques Abeille, la voix de Pierre Molinier, parce qu'on a eu des archives personnelles qui nous ont été prêtées, une voix absolument inimitable, et puis de découvrir et d'en savoir un petit peu plus ce qui est de l'ordre du fantasme dans la vie de Pierre Molinier ou de la réalité, l'histoire de sa sœur morte, du sperme dans ses œuvres, enfin bon, tout un tas de choses délicieuses.
Voilà. C'est bien, il y a des gens comme ça qui accompagnent Mauvais Genre depuis 20 ans, dont Pierre Molinier, parce que du temps d'Anis David, à la fin des années 90, on avait déjà beaucoup fait. Et puis, cette figure nous suit. Et puis, une autre figure qui nous suit depuis toutes ces années, à Mauvais Genre, et qui est au cœur de ce volume 3 de Midi Minuit Fantastique chez Rouge Profond, c'est Jean Boulet. Nous allons en parler ce soir dans Mauvais Genre, qui reçoit d'ailleurs Nicolas Stanzik. Voilà, Lustucru, c'est une musique d'Ennio Morricone, choisie par Laurent Polleret, bien évidemment. C'est la BO d'un film qui s'appelle Grazia, et qu'on pourra évidemment réécouter, la BO est disponible. Alors, Nicolas Stanzik, Rouge Profond, fidélité bien évidemment de l'éditeur à cette entreprise titanesque, donc la réédition augmentée, améliorée, restaurée, remaquettée de Midi Minuit Fantastique. Le tome 3 donc paraît ces jours. Alors rapidement pour les auditeurs qui n'auraient pas été là pour les épisodes précédents, Midi Minuit Fantastique, c'est la première revue européenne dédiée spécifiquement au cinéma fantastique. Elle paraîtra de 1962 à 1971 et ce tome 3 s'intéresse lui à la période qui va de mai 65 à juin 66, qui est une période décisive. C'est
67.
Pardon. Autant pour moi. C'est toujours une petite erreur pour avérer que c'est...
On va essayer de vous suivre.
Voilà, c'est ça. C'est toujours l'éditeur, donc tout édité par Eric Losfeld. C'est une période de mutation, puisqu'on voit apparaître le mot fantastique qui apparaît dans le titre de la revue. Il y a des changements de maquette. La rédaction est à peu près stable. On voit par contre s'élargir considérablement les champs d'application, si j'ose dire, de la passion de Michel Caine et de ses collaborateurs. Il y a plus de littérature. Il y via la bande dessinée. On voit les premières bandes dessinées de Philippe Druyer. On parle un peu plus d'autres pays que les emblématiques Angleterre, Italie, France et Amérique. Le Japon fait son apparition, l'Amérique du Sud. Donc on est vraiment dans, je dirais, peut-être le zénith de la revue. Et ce que vous nous montrez est très clairement également donc dans le DVD qui est joint. J'ai égaré mon exemplaire. Voilà, qui est ici. Donc le DVD qui contient tout un tas de goodies cinéphiliques et télévisuels assez étonnants, avec notamment un très grand documentaire où je passe comme soutien actif sur Jean Boulet, et puis des films dont on va parler. Philippe Rouillet.
Oui, alors ça c'est un travail absolument merveilleux. Alors, les lecteurs de Midi Minuit Fantastique se souviennent que c'est dans ce moment-là où, plus qu'un changement de maquette, c'est un changement de format. C'est-à-dire qu'on passe des petits Midi Minuit au grand format, plus grand encore que A4. Hein. Et le choix que je trouve très judicieux de cette restauration, c'est d'avoir tout unifié. C'est-à-dire que vous aurez vos exemplaires plus grands, un peu plus petits. Et évidemment, j'avais très hâte de voir le résultat, et le résultat est comme toujours très bon. En plus, j'allais dire, il y a toujours ce choix d'être revenu à la source des images pour les publier, et à partir du numéro 14, effectivement, Midi Minuit est encore plus illustré dans son édition originale, et donc on jouit totalement de ça dans cette édition. Il y en aura plus qu'encore une où il y aura donc les derniers numéros, et tout sera complet. On peut signaler qu'il reste quelques exemplaires du volume 2. Mais ça durera pas si longtemps.
C'est fini.
Parce que le paradoxe,
c'est plus l'heure.
C'est ce que vous nous rappeliez tout à l'heure, Nicolas, c'est que cette édition avait pour but de rendre accessible Midi Minuit, dont les numéros, les 24 numéros, étaient d'une cherté folle chez les collectionneurs. Et finalement, le numéro 1 se retrouve aujourd'hui, de votre anthologie, se retrouve à des prix fous.
Mais il est devenu plus cher que les originaux.
Voilà.
On voulait démocratiser le truc et ça s'est retourné contre nous.
Donc le côté très pratique, c'est qu'acheter le 2 et le 3 pendant que c'est encore possible. Voilà. Alors, ce numéro 3 s'ouvre, parce qu'il y a aussi des textes, il y a comme toujours, au milieu de l'ouvrage, il y a l'entracte du Midi Minuit, avec notamment un texte de notre ami Christophe Beer.
Sur Rita Renoir.
Alors là,
que l'on lit debout, à genoux, mais pas assis.
Oui, voilà, c'est, je laisse François ses commentaires, mais voilà, il y a tout ce qu'aime Christophe dans cette... Il y a un texte sur Druyer, en fait c'est un prolongement du DVD sur lequel nous reviendrons. Et puis, au départ, il y a deux textes inédits, il y a une très 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 belle introduction d'Edith Scob, qui était déjà très mise en valeur dans le numéro 2, dans le DVD.
C'est un peu la marraine, en fait, de l'intégrale MMF. Elle est là depuis le premier numéro. J'avais interviewé pour le premier numéro. Il y avait Fantasmagorie dans le deuxième, dans le DVD du deuxième. Et là, ce coup-ci, elle est à la préface. Voilà.
Et elle revient notamment sur le tournage de, parce qu'on s'en lasse pas, des yeux sans visage. Elle rappelle à quel point, notamment les scènes d'opération, c'était extrême, et comment Franju faisait déjà le lien avec le film scientifique. Et il avait, pour lui, le comble du film d'horreur était un film scientifique qu'elle cite, qui date de 1940. Et puis je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur un autre texte introductif qui est de vous, Nicolas, qui est un texte très fort qui raconte votre expérience le 13 novembre 2015. Le 13 novembre 2015, vous vous souvenez, c'est le soir du Bataclan. Et vous étiez là avec votre épouse et vous avez survécu à ce massacre en vous cachant au milieu des cadavres. Et évidemment, pour quelqu'un qui est fou de cinéma fantastique, c'est quelque chose de saisissant. Je veux dire, c'est absolument incroyable. On pourrait faire toute une émission là-dessus et vous raconter, c'est vraiment, je vous en remercie du fond du cœur, comment vous avez réussi à vous sauver, parce qu'il fallait devenir un corps sans pensée pour ne pas attirer l'attention des tueurs. Et tout d'un coup, vous avez pensé à Edgar Poe, la lettre volée. En fait, elle est tellement bien cachée qu'elle est au milieu de la table et que personne ne la voit. Et en fait, après, vous avez pensé à toutes sortes de films fantastiques et c'est votre amour de l'imaginaire qui vous a sauvé du réel. Et je trouve que c'est magnifique pour un amateur de fantastique d'avoir pu survivre comme ça. Et tous les gens qui disent, ouais, les gens qui aiment les films d'horreur, c'est la violence, c'est pas bien et tout ça. Ben non, la violence du réel, elle est là. C'est autre chose. On parle toujours de la catharsis pour purger. Mais là, c'est carrément le cinéma fantastique, l'imaginaire, pour sauver de l'horreur du monde. C'est magnifique. On est, c'est formidable que vous ayez pu être sauvé. Et c'est d'une grande générosité à vous de le raconter dans cette préface.
Nicolas.
Bah, merci beaucoup, Philippe, déjà. Voilà, c'est la première chose. En fait, pour moi, ce nouveau tome de Midi Minuit, du coup, il correspond, vous l'aurez compris, à un besoin vital. C'est un élan vital pour moi. Et mon intuition, quand je me suis lancé dans Midi Minuit, c'est que Midi Minuit, dans les années 60, c'était une histoire d'émancipation. Voilà, il s'agissait enfin d'imposer le fantastique, de lutter contre l'inculture, la bêtise, la peur, finalement. Et
bah, l'ordre, voilà. Et l'ordre moral.
Et l'ordre moral, bien sûr. Mais l'ordre moral, la peur, tout ça, c'est lié. La vraie peur, j'entends. Et 50 ans plus tard, je me disais, il y a quelque chose de moderne toujours là-dedans. Il y a quelque chose qui nous parle toujours. Ces combats-là, il faut continuer de les mener. C'est le combat que vous menez ici aussi à Mauvais Genre, d'ailleurs. Et après, ce qui m'est arrivé, j'en ai fini par comprendre que désormais, pour moi, Midi Minuit, c'était en fait carrément une affaire de résistance. Voilà, aujourd'hui, c'est de ça dont il s'agit. Et donc, du coup, ça, voilà, pour moi, la signification de ce nouveau tome et de ce texte en introduction, au-delà de ce qui m'est arrivé, c'était aussi tout simplement de rappeler ça. Voilà.
Fausto Fazulo.
Oui, puis il y a quelque chose d'un refuge, en fait, dans Midi Minuit Fantastique. C'est ce que dit d'ailleurs Philippe Drouillet dans le DVD. Quand il explique qu'à 16 ans, c'était un jeune paumé et qu'il est tombé sur Jean Boulet et que c'est grâce à ça que, d'une certaine façon, lui, il a pu s'émanciper et trouver sa voie. La chose à laquelle je pensais quand je lisais cette intégrale, puisqu'évidemment, j'ai jamais lu des Midi Minuit Fantastiques originaux, c'est qu'effectivement, à l'époque, cette revue, en fait, était un véritable espace d'émancipation, et de révélation, en fait. Pour les jeunes lecteurs et peut-être un peu moins jeunes qui la découvraient, la sensation en fait qu'on parlait le même langage qu'eux, qu'ils n'étaient pas seuls en fait, l'envie de transmettre une passion et de discuter avec le lecteur. Et on retrouve ça d'ailleurs dans le courrier des lecteurs qui est reproduit, où il y a des lettres qui sont absolument incroyables, très très drôles. Il y a aussi des réalisateurs qui écrivent, notamment William Castle qui remercie en fait la précision des informations données dans Midi Minuit Fantastique. Et donc cette connivence avec le lecteur et ce premier lien en fait qui est tissé avec lui, ça m'a vraiment paru comme étant un refuge pour à l'époque les gens qui étaient justement un peu ostracisés à cause de leur goût culturel.
Une poche de résistance et de virulence. On parlait effectivement du courrier des lecteurs. Il est extraordinaire. Une dame qui écrit pour dire que King Kong est une guenon lesbienne et que de toute façon, ça explique tout le film. Il n'y a pas de preuve objective, mais que ça ne peut être la seule solution pour expliquer le scénario, c'est ça?
C'est ça, oui. Comme il n'y a pas de preuve objective du contraire, c'est donc on peut considérer qu'elle a raison. Voilà, c'est son raisonnement.
Il y a également les mots croisés qui était fait par Jean-Claude Romère.
Oui. Alors très ça, important,
c'était très, très étonnant, comme on arrive à faire des mots croisés avec le nom de William Castle ou les amants d'outre-tombe.
Ou avec le baron Meister. Ou... C'est des mots croisés spécifiquement midi-minuistes.
Nicolas Stanzik est l'invité de Mauvais Genre sur France Culture ce soir pour le tome 3 de la réédition de Midi Minuit Fantastique.
Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Sextile Disco, un choix de Laurent Polleret pour Mauvais Genre. Alors, dans ce troisième tome, Nicolas Stanzik, volume 3 de la réédition de Midi Minuit Fantastique, il y a un trésor, une richesse véritablement intemporelle, puisque ça défie d'histoire, livrant peut-être des points de vue théoriques ou des querelles momentanées, des moments comme ça, des espèces de brouilles ou de bisbilles ou de points de vue. Ce sont les entretiens. Les grands entretiens sont extraordinaires. Parce que là, quand même, dans ce volume 3, on a affaire à Jacques Tourneur, Barbara Steele, Dominique Paolella, Edgar G. Ulmer, Karel Zeman, Jean-Pierre Mocky et Christopher Lee. Donc, et à la fois pour des...
Et François Truffaut,
ouais. Pour des entretiens qui vont beaucoup plus au-delà qu'une sorte de simple curiosité. Il y a une volonté à la fois de témoigner d'une expérience existentielle. Qu'est-ce que c'est que d'être une icône du fantastique dans les années 60? Qu'est-ce que c'est d'être un grand réalisateur? En même temps, vous-même, quel est votre rapport à la peur, à la terreur? Les questions qui sont posées à Ulmer ou à Tourneur, et puis un temps, quel est votre panthéon? Donc il y a véritablement là une richesse. On pourrait même prendre tous ces entretiens et les éditer à part, ce que heureusement vous n'avez pas fait. C'est vraiment là peut-être le point fort du volume.
Oui, c'est vraiment la période de l'histoire de la revue où ça devient leur préoccupation première, en fait. Rencontrer ceux qui font le fantastique.
Fait au magnétophone, c'est
mentionné. Ah oui, c'est précisé, bien sûr.
Dès le numéro 1, on avait Terence Fisher.
Mais on n'avait pas d'entretien de Terence Fisher à ce moment-là. Ah, c'était dans le numéro 7
oui,
et dans le numéro 10-11 par la suite. Les grands entretiens, c'est venu avec Marianne C. Cooper,
oui.
Par lettre, dans le numéro 6 spécial La chasse du comte Zaroff. Voilà, ça avait été le premier. Il y a eu Freda ensuite. Mais là, c'est vrai qu'à partir de 65, ça devient vraiment la préoccupation première. Et c'est vrai que ces textes-là, c'est toujours une source d'information absolument incroyable aujourd'hui. C'est quelque chose qui, de fait, ne peut pas vieillir. Alors, petite histoire par rapport à ces grands entretiens, il faut quand même se souvenir que la raison de la création de Midi Minuit, pour Michel Caen, c'était de trouver un prétexte pour pouvoir rencontrer Barbara Steele. C'était ça, l'idée. Donc l'idée, c'était de l'interviewer. Et de ce point de vue-là, on le sait tous aujourd'hui, il y a eu une aventure. Voilà, il l'a bien interviewé. D'ailleurs, on peut lire entre les lignes dans son introduction. Dans son introduction de l'entretien dans le numéro 12, et qu'effectivement, l'entretien s'est très très bien passé. Mais de ce point de vue-là, Midi Minuit, c'est vraiment la revue de la traversée du miroir. C'est tout à fait ça.
Philippe Rouillet.
Oui, il y a cet entretien avec Barbara Steele, dont elle nous avait parlé d'ailleurs.
Absolument.
Parce que...
À nous chantelle.
Voilà, bien avant. Moi, lecteur de Midi Minuit, je me demandais si c'était vrai ou pas, en fait. Voilà, mais c'est toujours comme ça. Bon. Bref, peu importe. Mais ça fait partie du charme.
Du mythe.
Ça fait partie du charme et du mythe, parce que c'était ça aussi à aborder. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, la question ne se pose plus. Enfin, je veux dire, les interviews, je veux dire, on ne va pas demander à Fausto s'il s'étonne de faire des entretiens avec le tout du monde fantastique. À l'époque, c'était vraiment une démarche singulière, comme de faire cette revue.
D'ailleurs, Ricardo Freda était très étonné de leur démarche. En début d'entretien, il se demandait si c'était pas une revue tenue plus ou moins par des vampires. Il comprenait pas le truc.
C'est quand même quelque chose de génial. Et puis alors, il y a un ensemble Christopher Lee qui est absolument extraordinaire. Parce que toujours, ce qu'il y a, c'est qu'il y a l'entretien qui est long. Et je veux dire, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu. À l'époque, chez Losfeld, Positif faisait aussi. Et d'ailleurs, il y a des collaborateurs comme Paul-Louis Tirard qui nous a quittés au mois de juin, qui faisait l'aller-retour entre les deux rédactions. Il y avait déjà cette envie, mais c'était quelque chose d'assez rare. L'entretien avec Christopher Lee se prolonge avec toute une étude sur Fu Manchu. Il y a énormément de choses. Et c'est cette interaction-là qui est dans la revue.
Et ce qui est formidable avec l'entretien avec Christopher Lee, c'est qu'on le sait par la suite, il a toujours rechigné à parler des années Hammer, de Dracula, de tout ça. Là, on a l'entretien où enfin, il en parle vraiment, et avec force détail, on le sent vraiment très impliqué. Ce qui n'était pas évident quand on voyait les entretiens des années, des décennies suivantes. Là, c'est vraiment le grand entretien midi-minuiste avec Christopher Lee.
Et puis, il y a Karel Zeman. Je pense que c'est très, très important, parce qu'à l'époque, je pense qu'on connaissait moins Karel Zeman. Et là, c'est vraiment un premier document avec aussi énormément... Il a ouvert ses archives. Il y a des croquis, il y a des comment sont faits les effets spéciaux, etc. Il n'y a pas à l'époque toutes ces revues où on vous détaille comment faire des effets spéciaux dans votre cuisine. Donc, c'est très important pour les lecteurs de découvrir cet univers-là.
Fausto ?
Oui, puis les entretiens, c'est vrai que ça permet de faire une sorte d'instantané en fait d'une certaine époque. C'est assez passionnant quand on lit Barbara Steele en fait dire que Cinecittà, ça se vide de plus en plus, qu'il y a de moins en moins de tournages, que finalement c'est un peu chiant de tourner là-bas. Quand on lit Jacques Tourneur démonter James Whale, par exemple, ou alors au contraire louer Mario Bava en saluant son passage à la mise en scène, quand on lit ça aujourd'hui, en fait, c'est totalement hallucinant. On a l'impression de prendre une machine à remonter dans le temps et on a vraiment l'impression, en tout cas, d'être à côté de l'intervieweur et de l'interviewé. Et ça, c'est vraiment fantastique, sans jeu de mots.
Hein. Il y a un article que j'ai trouvé très étonnant sur Batman et le camp.
Ah oui.
Alors ça, c'est étonnant, page 399, je suis précis, parce que le concept de camp n'est pas un concept très très à la mode et qui circule énormément à l'époque. Et là, d'ores et déjà, il y a une volonté de le mettre à jour. On attend toujours le grand livre de Pascal Français sur ce sujet hautement mauvais genre. Et là, il y a déjà... Alors, sur le plan, justement, je dirais, de la théorie du cinéma, j'imagine pas, on n'a pas affaire à des théoriciens, on a affaire à des amoureux, on a affaire à des érudits. Mais quels sont, selon vous, le regard technique, théorique qu'il porte sur le cinéma, c'est pas un regard d'analyse purement historique, ni structural, ni psychanalytique, ni une sorte de grande évocation poétique post-surréaliste. Comment parle-t-il du cinéma sur le plan théorique ?
Ça, c'est une question compliquée, parce qu'il y a peut-être plusieurs visions théoriques. Il n'y en a pas qu'une, en fait. Midi Minuit a créé un mouvement, mais en même temps, c'est un espèce de mouvement informel dont les contours sont mal définis. Faut bien voir qu'à Midi Minuit, il y a des gens qui viennent des cahiers du cinéma et de positif. Et que la trajectoire...
À une époque où les deux sont à couteau tiré.
Voilà, ça paraît tout à fait dingue dans ce contexte-là des années 60. Et c'est vrai que la trajectoire de Midi Minuit, on pourrait dire que ça vient du surréalisme, mais ça termine avec la politique des auteurs. Et en même temps, dès le numéro 1, il y a déjà une idée de politique des auteurs avec un spécial, non pas Hammer, mais un spécial Terence Fisher. Donc il y a plusieurs sensibilités qui s'expriment. Il y a par exemple chez Jean-Claude Romer, c'est vraiment une manière de chercher le retour à l'émotion primitive du cinéma, la baraque foraine, Méliès. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de la dimension populaire et ludique.
C'est le côté Boulet, ça.
Et c'est aussi le côté Boulet, bien sûr. Mmh. Chez Michel Kahn, on sent qu'il y a souvent des textes empreints d'une certaine culture psychanalytique. Je me souviens de sa critique du Voyeur, par exemple. Et en même temps, par exemple, il va faire une défense de Godard dans le numéro 13, donc dans ce volume 3, parce qu'il y a eu un texte qui avait été imposé par Eric Losfeld, écrit par l'éditeur de la revue, par un texte écrit par Louis Seguin qui démolissait littéralement Godard. Michel Kahn adorait Godard et ils étaient amis. Et si je me souviens bien, son texte est intitulé « Capitale de la douleur » en hommage à Paul Éluard. Et donc, il y a une espèce on utilise une imagerie surréaliste quelque part pour défendre le cinéaste représentatif des cahiers du cinéma à un moment donné où positif serait plutôt surréaliste. Donc, du coup, on brouille les pistes. Et c'est ça qui fait la force subversive de cette revue. C'est-à-dire qu'on prend des objets, on les entremêle. Il y a une espèce d'entremêlement pop des objets et un entremêlement pop des regards. Et c'est ce qui fait l'extrême modernité de cette revue.
Sur le camp aussi, si je puis me permettre, il y a aussi l'influence des États-Unis. Jean-Claude Romer est un grand lecteur de Fangoria, de toutes les revues américaines, et il se met un point d'honneur à témoigner en France de tout ce que pensent les cinéphiles fantastiques de l'autre côté de l'Atlantique.
Donc ça a la dimension, je dirais, d'un réseau international qui commence Fausto Fasulo à apparaître et dont d'une certaine façon...
Avec des correspondants, Jean-Claude Romer, nous en parle, il dit j'ai des correspondants, c'est un truc surréaliste à l'époque d'Internet où vous n'avez pas des correspondants, mais à l'époque c'est important parce qu'on s'écrit, on s'envoie des documents, le producteur d'Herschel Gordon Lewis publie dans le numéro 8 des documents, et puis des photos... On demande aux réalisateurs d'envoyer des photos. Il n'y a pas des services de presse. On ne va pas télécharger sur Internet des photos. Donc, des photos et puis plus tard, des films.
Mais j'ai retrouvé dans les archives de Michel pour l'édition de cette intégrale, le long courrier de Marianne C. Cooper, qui était l'entretien du numéro 6, où il précise qu'il avait envoyé telle et telle photo à côté. Alors, les photos, elles n'étaient plus dans le courrier. Elles avaient effectivement été utilisées pour le numéro. Mais voilà, Marianne C. Cooper envoyait des photos de King Kong, par exemple.
Fausto ?
Oui, puis il y a quelque chose de passionnant aussi, c'est les comptes rendus de festivals. Festival de Saint-Sébastien, Festival de Trieste.
De Cannes aussi.
Et de Cannes aussi, j'allais y venir justement, où là, j'ai bloqué sur le compte rendu de Cannes 65, qui est absolument hilarant. et dont un petit passage que je peux lire, si vous le permettez. Hein, il y a un passage qui est très drôle, justement. Alors je commence. Il est à peu près sûr maintenant que le rythme lent des films japonais est un mythe créé spécialement à l'usage des festivals. Tous ceux qui ont suivi l'an dernier la rétrospective de la Cinémathèque savent que les films japonais ne sont lents que lorsque l'esprit de leur metteur en scène l'est. Donc voilà, il y avait des saillies d'humour comme ça, où il y avait du coup Ozu Kobayashi qui se retrouvait dézingué. Enfin, il y avait c'est vraiment à la fois hyper moderne dans l'écriture, dans le rythme, et c'est surtout très très drôle.
Iggy Pop Underworld pour Mauvais Genre, qui est ce soir consacré à Midi Minuit Fantastique, le tome 3 de la réédition paru aux éditions Rouge Profond. Et ce tome paraît bien évidemment, comme ses prédécesseurs, nanti d'un riche DVD dans lequel, une fois de plus, il y a merveille. Alors je ne parle pas uniquement du documentaire sur Jean Boulet et du montage fait des rushs qui nous restent de son Dracula.
Ah si, il faut en parler.
C'est une ruse qui est la perle noire du DVD. Là, je suis un peu gêné puisque j'apparais dedans. Donc,
la
perle noire du DVD, mais également des films à redécouvrir. Alors il y a Les Coups de Pointu, un court-métrage de Jean Streff qu'on salue, absolument délirant, où on ne sait pas très bien chez qui on est, chez Godard ou chez Borowczyk. Enfin, ça change selon les moments.
Ou chez Kenneth Anger, il y a un peu de Scorpio
Rising. Chez Kenneth Anger, exactement. Mais alors moi, j'ai particulièrement apprécié deux courts-métrages que j'ignorais totalement. L'Homme au chat d'Henri Glaser, 1969, avec Armontel, célèbre comédien d'entre-deux-guerres. Alors, court-métrage extrêmement glauque, pervers, érotique, très effrayant. Très étrange, effrayant, d'un vieillard qui vit dans sa banlieue entouré de tout un sérail de chats avec lesquels il a des rapports que la morale réprouve. Mais on découvre également que dans sa cave, il se passe des choses, mais on n'en dit pas plus. Et puis tout de Claude Loubary, qui m'avait l'air d'un personnage, alors lui, apte à parrainer Mauvais Genre, il y a Ténèbres. Là aussi, tout à fait étonnant. Alors là, c'est pareil, ce sont des films. Et puis ce documentaire sur Jean Boulet, ce sont des films qui, d'une façon, auréolent un peu le livre et lui donnent une sorte de prolongement, on peut dire d'hypertexte, mais presque.
L'idée, ça a toujours été non seulement de rééditer la revue, mais de donner à voir, à percevoir, à écouter le mouvement midi-minuiste qui était né de cette revue. Et le meilleur moyen, c'était évidemment de retrouver des films. Et en l'occurrence, plus on cherchait, plus on en trouvait. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour ce volume 3, effectivement, on a fait des découvertes très étonnantes. C'est Jean-Pierre Bouixou qui m'avait parlé de Ténèbres de Claude Loubary. Jean-Pierre Bouixou et Noël Simsoleux, tous les deux avaient bien connu Loubary. Lui, c'est un personnage très étrange, donc il a été proche à un moment donné de Michel Coen et de Jean-Claude Romer, un Lyonnais
donc,
qui avait monté
quelqu'un d'étrange.
Il avait monté un ciné-club qui s'appelait le Midi Minuit 2 à Lyon, voilà. Je crois qu'il y a eu des bisbilles entre lui et l'équipe de MMF, ce qui fait qu'il n'a jamais écrit dans la revue. En revanche, ce court-métrage, c'est presque du Lucio Fulci 10 ans avant L'Au-delà, L'Enfer des zombies, etc. Il y a vraiment quelque chose de très maîtrisé, de cauchemardesque, d'effrayant. Et c'est un court-métrage qui, paraît-il, avait tapé dans l'œil de Hitchcock. En tout cas, Claude Loubary se promenait dans tout Paris avec une lettre d'Hitchcock qu'il exhibait, où il était écrit que Hitchcock aurait voulu le faire distribuer en première partie de Frenzy. Voilà.
Et quant à Jean Boulet, bien, on a enfin sur DVD donc ce qui reste du théâtre d'ombre de Dracula.
Mais grâce à vous, François, il faut le préciser.
Et à Philippe Drouillet.
Oui, parce que je vais faire le rappel historique. Vous qui avez passé à Beaubourg lors de cet hommage à Jean Boulet en 2001.
Grâce à Roland Lacourbe. Enfin, on ne va pas raconter l'histoire.
C'est raconté dans le film.
Tout est raconté dans le film.
Voilà, mais toujours est-il qu'effectivement, donc, on a réussi enfin à remettre la main sur ces rushs. Ce qui semble être les chutes d'un premier montage disparu, pour être précis. Et donc, on a pris le parti de monter ces rushs, parce qu'il y avait, en le visionnant tout simplement, il y avait une sorte d'évidence. Le film nous appelait, quelque part. Et donc, on a un montage de 9 minutes qui correspond aux aventures de Jonathan Harker dans le château du comte Dracula, les aventures homo-érotiques de Jonathan Harker dans le château du comte Dracula. On est quand même chez Jean Boulet, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment un film magique. Hein. Pour être tout à fait honnête, le film nous a vampirisé quelque part. Depuis 2011-2012, quand on s'est lancé dans cette intégrale MMF, l'idée, c'était aussi de le retrouver. Et on est vraiment extrêmement heureux de pouvoir le présenter enfin au public. C'est vraiment quelque chose de très fort.
C'est vraiment important, parce que moi, c'est un film que je rêvais de voir. Mais autour de ce film, il y avait deux camps. Il y avait ceux qui disaient « il vaut mieux pas le montrer du tout ». S'en tenir à quelques photos qu'on a ici ou là, et ce sera beaucoup plus fort les gens qui le rêvent. Et quand je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur en mettant la galette de ce DVD dans mon lecteur, en me disant peut-être je vais être déçu, et peut-être que ce film que j'ai tant rêvé, finalement, je vais dire c'est que ça. Mais bon, après tout, ce sont que des rushs montés. Vous avez l'honnêteté de dire,
c'est même le double spectral d'un film qui n'a jamais existé.
Donc,
c'est un peu ça, hein.
Au pire, ce sera passionnant, comme la scène coupée, le montage alternatif, pour l'histoire du cinéma. Et en fait, non. En fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout été déçu. J'ai été moi aussi vampirisé par ce film qui fait presque 9 minutes,
hein,
et sur lequel vous avez rajouté une musique et qui est d'une beauté, mais je veux dire renversante. Le film a un rythme, le film déploie quelque chose de vénéneux qu'on retrouve dans aucune autre version de Dracula, même s'il y en a des formidables pour l'écran. Celle-ci a vraiment sa place et on ne l'oubliera jamais. Grand merci de l'avoir joint à cette anthologie.
Fausto, pour conclure.
Pour conclure, il y a quelque chose de passionnant aussi, c'est les introductions qui sont faites à tous ces courts-métrages, puisque ça nous permet d'en savoir un petit peu plus et d'éclairer l'œuvre sous un autre angle. Je pense par exemple à Ténèbres. C'est vrai que le fait d'en savoir un petit peu plus sur la personnalité complexe de son réalisateur, ça nous fait regarder le film différemment, en fait. Quand on sait effectivement que ce court-métrage est probablement issu d'un esprit malade, le fait de voir ce film malade, ça nous met dans une sorte d'ambiance, on va dire, très malaisante, et ça nous fait vraiment recevoir en fait la chose de manière différente. Et j'ai trouvé que toutes les introductions étaient vraiment très riches, très rythmées, et surtout, elles permettaient d'aborder l'œuvre qui suivait de manière beaucoup plus maîtrisée, en fait.
Nicolas Stanzik est le maître d'œuvre avec Michel Kahn, donc, de cette réédition de Midi Minuit Fantastique, bien plus qu'une réédition, une refondation, on peut le dire, de cette revue. Donc, c'est aux éditions Rouge Profond. Dernier disque de Chili Gonzalez, un choix de Laurent Polleret, le disque de la semaine sur Mauvais Genre.
Seconde partie de l'émission dans Mauvais Genre sur France Culture ce soir. La sortie en gloire d'Hellraiser de Clive Barker grâce au label ESC qui nous propose un magnifique coffret DVD et Blu-ray, donc de 4 Blu-ray et 3 DVD avec un volume joint de critiques de l'ensemble. Ça fait vraiment un objet absolument magnifique, monsieur Rouillé.
Oui, c'est parce qu'Hellraiser, on attendait ça avec impatience parce qu'en fait, en zone 2, on avait le disque TF. Fin, mais qui était pas formidable, qui était recadré, qui avait plein de problèmes. Et sur Hellraiser 2, qui est tout à fait intéressant, le film de Tony Randall, on avait carrément que la version coupée qui était sortie déjà en salle. Moi, je l'avais vu, la version uncut, je l'avais vu au Festival de Toronto, en compagnie de Tony Randall, et j'avais été fort déçu de voir après ce qu'il en restait dans la version française. Donc là, on a en majesté, en Blu-ray, ce qu'on attendait, donc la version Hellraiser complète du premier film, le numéro 2 avec sa version cut et puis sa version uncut. Et pareil pour le numéro 3, qui est un film de moindre importance. Mais voilà, et dans le volume qui accompagne, Marc Toulec raconte même, parce qu'il y a en fait, il y a eu 10 Hellraiser. Donc, mais bon, c'est pas la peine de tous les voir. Et Marc Toulec les a vus pour nous et nous raconte ce qu'il y a à en dire. Mais voilà, ce qui est important, c'est qu'on revient dans le jus, dans le cœur de ce qu'a été Hellraiser, le premier, qui est vraiment une déflagration dans le cinéma fantastique des années 80. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on attendait beaucoup. Moi, je me souviens de la projection de presse du film et j'y allais avec de l'envie parce que Clive Barker, on le connaissait comme auteur de livres et ce qui nous déplaisait, ce qui lui déplaisait à lui, c'est qu'à chaque fois qu'il avait été adapté au cinéma, c'était mauvais ou médiocre. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, c'est moi qui vais adapter mon propre bouquin, Hellraiser Unbound, qui ressort du coup en français.
Alors signalons que Bragelonne a eu la très bonne idée d'abord de rééditer tout Clive Barker, ou quasiment, et notamment l'édition collector Hellraiser. Donc vous pouvez à la fois lire le texte de Clive Barker avec un long entretien, une préface, et puis voir enfin les films.
Alors les différents suppléments du film, le commentaire audio, le long making-of qu'il y a dans le quatrième Blu-ray qui s'appelle Léviathan reviennent sur toute la genèse et tout ça, comment ça a été compliqué finalement pour Clive Barker de convaincre, on a un peu de mal aujourd'hui à comprendre ça, de convaincre des financiers qui, oui d'accord, mais est-ce que c'est une bonne idée que ce soit lui qui réalise, il a jamais réalisé de film, enfin il a fait 2 petits courts-métrages et mais lui, il y tenait parce qu'il a un concept, son concept c'est celui des cénobites, c'est-à-dire ces sortes de prêtres qui viennent de l'enfer ou d'une autre réalité et qui viennent à la demande. C'est-à-dire que c'est pas comme des fantômes qui viendraient vous casser les pieds. Vous les avez appelés. C'est la fameuse boîte. Vous les avez appelés. Vous avez résolu le casse-tête chinois et vous êtes en demande de plaisir dans la souffrance. C'est donc du SM. Alors, le SM et le cinéma d'horreur, c'est une longue histoire. On pourrait dire qu'on le tisse dès le début, dès les premiers Dracula et tout ça. Mais là, c'est totalement revendiqué dans un univers queer. Et ce qui est très amusant, c'est de voir que dans le premier Hellraiser, Pinhead, le fameux tête d'épingle, ne s'appelle pas Pinhead. C'est le premier des Cénobites. Et c'est plus tard que le personnage joué par Douglas Bradley devint tellement célèbre qu'il aura son nom de Pinhead.
Sixtine Audebert, autre fan absolue d'Hellraiser.
C'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que de toute façon, le film porte le discours un peu moralo, qui est assez commun finalement dans les films d'horreur de facture anglaise ou américaine, le côté puritain, où il y a toujours le couple qui est coupable et qui finalement, quelque chose va surgir et punir l'ensemble. Mais là, c'est vrai que c'est intéressant, c'est d'autant plus intéressant qu'on est au moment 80-90, donc on est en plein pendant les épidémies de sida, et on connaît justement de fait les positions de Clive Barker par rapport à ce... puisque lui était explicitement gay et associé au milieu gay comme Anne Rice. Et on sent dans ce film qu'il y a quelque chose qui filtre, bon, outre de fait justement les esthétiques qui sont vraiment très travaillées, tous ces corps complètement lacérés où il y a un raffinement, on sent qu'il y a une espèce d'attention portée au corps en souffrance. On sent qu'il y a quand même une équation féconde à ce moment entre le corps au centre, l'horreur du corps, le fantastique comme étant un traitement allégorique de la réalité, et finalement une sexualité à la fois dangereuse, marginale, mais en même temps qui a besoin d'aller sur le devant, de revendiquer. Et justement, ce que dit souvent Clive Barker dans ses interviews à l'époque, dans les interviews avec un public assez mainstream, où les gens justement l'interrogent toujours sur la question fétiche des gens qui ne sont pas donc des amateurs d'horreur et qui considèrent l'amateur d'horreur comme étant un pervers qui trouve des joies paradoxales dans le visionnage de visions atroces, etc. Lui demande comment est-ce que vous allez protéger les enfants de vos fictions, de comment est-ce que le lecteur de 15 ans... Et lui répond, écoutez, moi ce que je propose c'est quand même une axiologie, de réévaluer les axiologies et de rentrer, donc de manière finalement assez classique, hein, dans la tête du monstre, de devenir le monstre et de voir comment le bien et le mal sont mal évalués à partir de nos valeurs et de notre société. Et donc, et c'est ce qu'il propose également dans Cabale, hein, si on reprend...
On reviendra sur Clive Barker, parce que le personnage, lui aussi, à mon avis, mérite d'être considéré largement. Fausto.
Je pense que Jean Boulet aurait beaucoup aimé
Lindbergh. En fait. Je pense qu'il y aurait trouvé un emploi. Pour la vie, là.
Donc, c'est d'ailleurs assez fou aujourd'hui quand on revoit Hellraiser, c'est déjà de voir que c'est un film qui a été énormément fantasmé, hein, puisque c'est un tout petit budget. C'est quand même un film dont la majorité des enjeux se passe dans un grenier. Très peu de comédiens. Enfin, voilà, et pourtant, le film parvient à être complètement lyrique. Complètement lyrique, et puis surtout à cristalliser en fait toutes les obsessions d'un homme, donc obsession pour le cuir, pour l'homosexualité, pour le sadomasochisme. Alors il n'a pas pu mettre en image tout ce qu'il voulait dans le film, mais c'est incroyable de voir en fait l'onde de choc d'un film qui parle comme ça de la souffrance, du plaisir de la souffrance, qui multiplie les sous-textes et les appels du pied ou les clins d'œil au spectateur. Hein. Y a tant de choses à découvrir, ouais. Viens voir papa, enfin je veux dire, il y a plein de choses dans le film qui sont quand même assez incroyables, et de voir en fait que le film aujourd'hui devenu un classique absolu, moi ça me sidère encore, et de le revoir aujourd'hui éclairé sous une restauration effectivement magnifique, telle qu'elle est présentée dans ce coffret, moi en tout cas ça me fait dire que le film n'a pas pris une seule ride.
À redécouvrir la trilogie d'Hellraiser de Clive Barker, un coffret donc du label ESC. L'émission se conclut bien évidemment avec le maître Bire.
Gilles Berquet produit des images de l'esprit et non des reproductions de la réalité. Abordant la photographie en autodidacte en 1981, dès sa sortie des Beaux-Arts, il n'a cessé de fabriquer des images plutôt que de prendre des photos. Des modèles féminins, au corps contraint, attaché, théâtralisé, s'accordent à son désir de fiction. Longtemps, entre elle et lui, les séances sont en intérieur. Cérémonie artisanale et exigeante, peaufinée par le tirage en argentique. Des clichés périlleux comme des songes, éloignés du marché érotique, détournent le folklore fétichiste pour semer une angoisse sourde à l'humour surréaliste. Le premier livre, « Les limbes de l'ange », est publié en 1989, suivi d'une prestigieuse série au parfum mécanique qui affirme le perfectionnisme iconoclaste de Berquet. Depuis 2007, il s'est emparé du procédé numérique en l'hybridant avec la photographie traditionnelle et explore la couleur. Publié par les éditions Locaux, Le fétiche est une grammaire, que l'artiste a conçue à partir de ses 37 ans d'activité, évite la monographie convenue. Aucune bio-bibliographie ne fige sa trajectoire. Aucun texte ne souligne les intentions et ne définit de façon abrupte des périodes ou des thématiques. Clichés argentiques et impressions numériques se répondent, fragments d'un même récit, au centre duquel surgit un texte de Michel Onfray, déjà son préfacier en 2000, et qui perçoit cet ouvrage somme comme la cosmographie d'un univers dont le photographe capte la lumière et les vibrations. Exploitant l'imposante hauteur sous plafond de son studio de Clamart, une photographie de 2008 évoque l'apocalyptique Kiss Me Deadly de Robert Aldrich, sa lumière aveuglante derrière la porte. Cerné par le noir profond, comme une menace d'encre, une fragile silhouette de femme nue debout sur ses talons, tendue de curiosité, vibre par la lumière blanche d'une tenture entrouverte, une faille, une plaie selon Berquet, rideau plus déchiré qu'entrebâillé, rideau de douche de psychose. En métamorphose fétichiste, en corvalise ou harnachée, s'adaptant à d'improbables équilibres, ces modèles féminins retrouvent la beauté fatale de l'épouvante hollywoodienne. Immobile dans la forêt, Mirka Lugosi a le regard écarquillé, la bouche pourpre, le masque de cire de Carole Borland. Dans les travaux récents, débarrassé des accessoires, à peine contraint, le corps du modèle reste mutant et fidèle aux talons aiguilles qui font d'elle, selon le mot d'Onfray, une couturière des êtres. Un faux minimalisme perpétue l'inquiétude et le secret. La femme saisie dans la lumière du rideau déchiré. C'est un autoportrait de l'artiste au travail, attiré par l'inconnu.
Merci Christophe Beer, merci Nicolas Stanzik d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre pour le monumental numéro volume 3 de la réédition Midi Minuit Fantastique chez Rouge Profond. Il y a également une soirée parisienne consacrée à l'événement.
Mardi 11 septembre prochain au studio de l'Étoile. Oh, pardon, l'absurde, au club de l'Étoile. C'était le studio de l'Étoile il y a quelques années. Voilà, exactement. À partir de 19h30, nous passerons Le Dracula ombre chinoise de Jean Boulet, La brûlure de mille soleils de Pierre Caste, Ténèbres de Claude Loubary, et nous terminerons la soirée avec Le Mort dans le filet, chef-d'œuvre dadaïste selon Ado Kirou, en positif.
À Christophe Beer, merci de Nicolas Stanzik. Je signale de Dominique Charnet aux éditions La Part Commune, Queneau dans le jardin de Buñuel, Je me suis bien emmerdé, 10 ans avant midi minuit. Queneau était dialoguiste au Mexique pour Buñuel et il ne s'est pas vraiment amusé à retrouver dans ce petit livre totalement érudit et savoureux. Je signale le numéro de positif, numéro 691, avec un grand entretien de Jacques Audiard et également un hommage à Paul Louis Tirard. Mad Movies, nouvelle formule, c'est maintenant dans les kiosques et ouverture en beauté avec Halloween. Nous avons évoqué ce soir Hellraiser, la trilogie, c'est chez ESC. Brajlon, réédite tout, Clive Barker. Et je reviens une dernière fois pour dire que le tome 3 de Midi Minuit Fantastique est absolument inévitable dans vos bibliothèques, chères auditrices et chers auditeurs, toute l'équipe de Mauvais Genre. Laurent-Paul Ré, Claude Nure, Céline Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnay, Sixtine Audebert, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, Christophe Beer et François Joly. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain où je recevrai Joseph Alterac et Guy Coste pour leur monumentale encyclopédie de la vieille science-fiction française Rétro-Fiction. C'est aux éditions Les Belles Lettres. Et d'ici là, bonne nuit à tous.